semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 28 septembre, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire, notre voyage au cœur de 7 jours d'actualité. Et il va être beaucoup question du Proche-Orient, avec notre invité, l'historien anglais James Barr, qui a écrit un livre passionnant qui se lit comme un roman sur le partage de cette région du monde par les Français et les Britanniques dans la première partie du XXe siècle. Un partage qui a encore des conséquences aujourd'hui, nous le verrons. Une semaine d'actualité donc, un magazine que vous pouvez aussi podcaster sur votre moteur de recherche préféré, sur le site de la radio www.rfi.fr, sur l'application RFI 100% Radio et à la page Une semaine d'actu de Facebook. Mais commençons ce numéro avec la mort de Jacques Chirac, président de la République française de 1995 à 2007. On l'a appris jeudi. RFI a développé cet événement lors de sessions spéciales depuis jeudi matin. Jacques Chirac, sans doute le président de la 5e République le plus proche de l'Afrique. Écoutez par exemple ce qu'il disait à la fin de son second mandat, le 15 février 2007. C'était lors de son dernier sommet France-Afrique à Cannes.
Nous sommes réunis parce que la France aime l'Afrique, se sent liée à elle par les engagements de la fraternité, de l'histoire, tout simplement du cœur. Avec, pour ce qui me concerne, une double conviction. Il n'y aura pas de mondialisation réussie sans une Afrique forte et confiante. Mais les efforts de l'Afrique seraient réduits à néant si le monde ne l'épaulait pas dans sa marche vers l'avenir. Votre présence témoigne de la relation d'exception entre la France et l'Afrique. Elle me touche d'autant plus que j'ai tissé de longue date des liens personnels avec beaucoup d'entre vous. Et vous le savez, j'aime et je respecte l'Afrique.
Nous reparlerons évidemment de Jacques Chirac tout à l'heure. Bonjour James Barr.
Bonjour Pierre-Edouard.
Vous êtes historien, diplômé d'Oxford, chercheur associé au King's College de Londres et auteur d'un livre que j'ai trouvé vraiment passionnant, je ne suis pas le seul visiblement, qui s'intitule Une ligne dans le sable en français, publié ces jours-ci en poche chez Perrin dans la collection Tempus, qui est une collection facile à lire et précieuse, riche. Un mot sur Jacques Chirac, vous êtes arrivé à Paris jeudi, au moment même où on apprenait la mort de Jacques Chirac.
Oui, en fait, j'apprenais la nouvelle dans le train en venant à Paris. Et oui, c'est choquant en fait, parce qu'il était très respecté, très connu chez nous, même qu'ici en France, même s'il n'était pas enthousiaste à la cuisine anglaise.
C'était plutôt la bonne cuisine corrézienne du centre de la France, roborative.
Tout à fait. Non, il était très respecté. En fait, parmi beaucoup de gens admirés pour son indépendance d'esprit en 2003 avec l'invasion d'Irak.
Oui, on va en parler de cet épisode très important durant sa présence au pouvoir. Et il faut d'abord parler de votre livre James Barr et du thème que vous développez, qui est un thème très important, qui a encore des résonances aujourd'hui. C'est le partage du Proche-Orient en deux zones, en gros, je schématise. Sur les ruines de l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale et les accords Sykes-Picot. Il faut rappeler ce que furent ces accords signés en 1916.
D'accord, c'est un accord entre l'Angleterre et la France pour trancher le Moyen-Orient, en effet, en secret aussi. Ce n'était qu'en l'année prochaine, avec la chute de la Russie, qu'on a découvert le contenu de l'accord. Donc ça restait secret lorsque les négociations se passaient. Donc c'était créer deux zones d'influence pour la France au Liban et en Syrie et en Palestine et en Irak pour les Britanniques au sud. Donc c'était vraiment pour apaiser des tensions dans leur alliance pendant la guerre qu'ils l'ont fait. Et ça a eu des conséquences.
Et il s'agit vraiment d'une ligne dans le sable dans votre livre. Il y a des cartes précieuses. On s'aperçoit que vraiment c'est une ligne tirée au cordeau, une ligne droite, comme on a pu le voir lors du découpage colonial de l'Afrique, par exemple. Des lignes droites.
Oui, tout à fait. C'est juste comme pendant le 19e siècle, une ligne droite. On peut voir les cartes. Il y a deux exemplaires, une ici à Paris et une à Londres. J'ai vu celle à Londres et c'est frappant parce que c'est tout en crayon. Il y a des lignes. Et en fait, Sykes, qui était le négociateur britannique, a parlé d'une ligne qui allait de l'E de Acre, Saint-Jean-d'Acre, au dernier K de Kirkuk. Donc c'est vraiment à la carte qu'ils ont proposé cette ligne.
Et dans ce livre que vous avez écrit et qui est donc édité chez Perrin dans la collection Timpus, donc très accessible, vous nous racontez que les Anglais et les Français n'ont eu de cesse d'essayer de torpiller d'affaiblir l'autre camp. C'est-à-dire les Anglais ont tout fait pour saboter un petit peu la présence française dans leur zone et inversement.
Oui, tout à fait, parce que ni l'un ni l'autre pouvoir voulait l'existence de l'autre comme voisin au Moyen-Orient. Donc, l'accord a créé le règlement politique qui s'est passé de l'après-guerre, et ça a créé une frontière très très faible entre les deux pouvoirs. Donc, on avait des révoltes qui éclataient à tous les deux côtés de la frontière, et chaque fois que, par exemple, la France demandait aux Anglais de les aider. En fait, les Anglais ont dit non, on peut pas, parce qu'ils ne voulaient pas susciter la haine arabe, parce que tous les deux côtés, les Français soit les Anglais avaient un grand problème. Ils n'étaient pas du tout populaires.
Alors, au milieu de ces territoires, évidemment, il y a la population d'origine, les Arabes, qui vont être instrumentalisés, soit par les Britanniques, par les Anglais, soit par les Français.
Oui, tout à fait. Et aussi la population juive croissante qui existait
en
Palestine. Mais oui, c'est ça. Et c'est difficile à dire, mais les Arabes, parce qu'il y avait une révolte en Syrie pendant les années 20, et là, les Français soupçonnaient qu'il y avait un soutien anglais aux combattants arabes. En fait, il n'y a pas de preuves, mais ce qui est certain est que les combattants qui se trouvaient à leur base étaient vraiment dans le sud de la Syrie, au Jebel Druze, recevaient leur soutien de l'autre côté de la frontière, donc du territoire contrôlé par les Britanniques.
Alors, ce qu'il faut préciser, James Barr, c'est que les Anglais et les Français, à cette époque, ont promis aux Arabes une indépendance, un État.
Oui, en fait, au début, c'était les Anglais qui l'ont promis. Ils l'ont promis à quelqu'un qui s'appelait le Sharif Hussein de la Mecque, lui, pendant la guerre. Et ils ont rompu cette promesse à l'après-guerre. Puis c'était les Français sous Charles de Gaulle pendant les années 40 qui a fait la même promesse, une promesse un peu moins large, mais en fait c'était une promesse de l'indépendance au Liban et en Syrie. Et ils ont rompu eux-mêmes aussi.
Et c'est l'épisode que nous connaissons tous et qui a été adapté au cinéma d'ailleurs, de l'épopée de Laurence d'Arabie.
Oui, tout à fait. C'est un très bon film, je l'ai vu plusieurs fois, et c'est assez précis, oui, tout à fait. Quand il y a quelque chose qu'ils ont changé pour rendre le film plus facile à comprendre, la situation plus facile à comprendre, mais en fait, le caractère de Laurence a été bien joué par Peter O'Toole.
Avant de partir pour le Proche-Orient, arrêtons-nous d'abord à New York, James Barr, pour revenir sur le sommet sur le climat de l'ONU avant l'Assemblée générale de l'organisation qui continue d'ailleurs. Et c'est peut-être l'image de la semaine dans le monde, celle de la jeune Greta Thunberg interpellant le chef d'État à New York, reportage de Muriel Paradon à New York donc.
Vêtue de rose, la voix tremblante, Greta Thunberg exprime sa colère devant les dirigeants du monde entier. Ils étaient venus vanter leurs progrès en matière de protection de l'environnement. La jeune militante suédoise les ramène brutalement à la réalité de l'urgence climatique avec ce vibrant réquisitoire.
Je ne devrais pas être là. Je devrais être à l'école de l'autre côté de l'océan. Et là, vous venez devant nous, les jeunes, pour nous parler d'espoir. Mais comment osez-vous? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. Et encore, je suis parmi les chanceuses. Des gens souffrent, des gens meurent, des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction de masse et tout ce dont vous parlez, c'est d'argent et de contes de fées de croissance économique éternelle. Comment osez-vous?
Longuement applaudie, Greta Thunberg quitte le podium et laisse place au discours des chefs d'État. Surprise, Donald Trump, qui ne devait pas assister au sommet, jette une tête quelques minutes. Le président américain, qui rechigne à défendre la cause climatique, arrive au moment où la jeune Suédoise s'en va. Il est entouré d'un imposant dispositif de sécurité. Il ne la verra même pas.
Je vous ai vu, James Barr, très attentif en écoutant cette jeune fille. Comment vous avez ressenti cette déclaration qui a été diffusée dans le monde entier, hein?
Oui, c'est très bien diffusée. Et pour moi, c'est difficile parce que le discours est vraiment frappant dans le langage.
Et il y a le ton aussi. Oui,
oui. C'est ça. En anglais, c'est vraiment étonnant. Pour moi, c'est difficile parce que je pense que il faut un rassemblement. Le langage de ce discours est vraiment clivant. Et ça, je n'aime pas, en fait. Je pense qu'il faut trouver une méthode de rassembler les gens. Parce qu'il y a un défi. Il y a des faits. Moi, je suis plus optimiste. Je pense qu'il faut de la croissance économique pour trouver les moyens pour résoudre les problèmes qu'on voit. J'ai un peu une méfiance un peu de la manière dans laquelle elle a parlé.
Alors, je vous propose, James Barr, de partir pour votre pays, l'Angleterre, où il se passe des choses intéressantes sur le plan politique. Et on va reparler donc du Brexit. Boris Johnson, le Premier ministre, a essuyé une défaite historique devant la Cour suprême, qui a jugé illégale sa décision de suspendre le Parlement. Il faut dire que la décision avait choqué. Le président de la Chambre basse du Parlement, John Bercow, a invité les députés à siéger dès mercredi matin. Et l'ambiance a été pour le moins tendue, Vincent Souriau.
Boris Johnson arrive devant les députés avec 2 heures de retard. Remonté comme une pendule, il fustige l'opposition. Ce Parlement paralysé, dit-il, instrumentalise la justice contre les Britanniques qui ont voté le Brexit. Ce n'est absolument pas manquer de respect à la justice que de dire que la Cour suprême a eu tort de se prononcer sur ce qui est avant tout une question politique. Nous avons des députés d'opposition qui se ruent devant les tribunaux pour tout bloquer, pour tout retarder. Par pur égoïsme et lâcheté politique, l'opposition ne veut pas s'effacer et donner la parole au peuple. Face à lui, les travaillistes jubilent. Jeremy Corbyn, le chef de l'opposition, trop content de tacler le Premier ministre après son camouflet judiciaire.
On vient d'entendre 10 minutes de boniment venu d'un Premier ministre dangereux qui se croit au-dessus des lois. Après la décision des juges, le Premier ministre aurait dû faire la seule chose honorable, démissionner.
La bataille continue plus que 5 semaines avant la date butoir du 31 octobre.
Je rappelle aussi James Barr, que le pionnier des voyagistes, le britannique Thomas Cook, a brutalement fait faillite lundi, ce qui a contraint les autorités à lancer un rapatriement sans précédent de quelques 600 000 vacanciers. Le sort de plus de 20 000 employés de la société reste pour le moins incertain. Direction les États-Unis, maintenant, les démocrates ont lancé la première étape d'une mise en accusation solennelle de Donald Trump, soupçonné d'avoir demandé au président ukrainien d'enquêter sur son rival politique Joe Biden, et plus précisément son fils, une procédure rare et explosive qui a toutefois peu de chances d'aboutir à la destitution du président américain. Les deux présidents, ukrainien et américain, en ont parlé à New York. Encore New York, retrouvons Muriel Parado.
Enfoncé dans un fauteuil, le jeune et inexpérimenté président ukrainien se retrouve bombardé de questions. Volodymyr Zelensky a-t-il reçu ce fameux coup de téléphone de Donald Trump lui demandant d'enquêter sur son rival Joe Biden? Il répond aux journalistes.
Je suis désolé, mais je ne veux pas être impliqué dans une élection démocratique aux États-Unis. Non, on a eu une bonne conversation téléphonique, c'était normal. On a parlé de plein de choses et je pense que vous le savez, personne n'a fait pression sur moi.
Personne n'a fait pression, s'empresse d'ajouter le président américain à ses côtés. Donald Trump minimise également le contenu de ce fameux coup de téléphone.
Non, moi je voulais juste lui demander de faire ce qu'il pouvait, et ce n'est pas de sa faute, de faire ce qu'il pouvait pour lutter contre la corruption massive. Et quand le fils de Joe Biden a quitté l'Ukraine avec des millions de dollars, il n'était pas au courant. Et ces millions de dollars, c'est de la corruption. And they're paying
him millions of dollars, that's corruption. Interrogé sur la procédure de destitution lancée contre lui par la chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, Donald Trump répond sèchement « Elle s'est perdue en route ».
Autre moment important de l'Assemblée générale de l'ONU, la 74e du nom, le discours du président iranien Hassan Rouhani. Pas de dialogue avec les États-Unis tant que les sanctions ne seront pas levées, dit-il, et critique de l'Europe incapable d'agir. Direction Israël, et là nous revenons à cette ligne dans le sable, James Barr. Benjamin Netanyahou a été chargé par le président israélien de former un nouveau gouvernement après les récentes, très récentes élections législatives à Jérusalem. Guillaume Deltaï.
C'est grâce au soutien de 54 autres députés que Benjamin Netanyahou a été chargé de former le prochain gouvernement. Mais le premier ministre sortant doit trouver d'autres alliés. Il lui manque l'apport de 6 voix pour obtenir une majorité. « Je sais », a-t-il déclaré, « que je n'ai pas plus de chance que Benny Gantz de former un gouvernement, mais disons que mon incapacité est un peu plus petite ». Tout de suite après l'annonce de sa désignation, Benjamin Netanyahou a lancé un appel à son rival à entrer dans un gouvernement d'union, citant la menace que représente à ses yeux l'Iran et la perspective du plan de paix que Donald Trump entend présenter. Mais en réponse, Benny Gantz a affirmé que son parti n'entrera pas dans un gouvernement dont le chef fait face à une mise en examen aussi lourde. Les autres partis du bloc de centre-gauche rejettent aussi l'entrée dans un gouvernement Netanyahou en raison des accusations de corruption qui pèsent contre lui. Le chef du Likoud pourrait alors tenter de convaincre son ancien ministre, Avigdor Lieberman, mais lui réclame un gouvernement sans les partis religieux alliés de Benjamin Netanyahou. L'équation est celle sur laquelle le Premier ministre à la plus grande longévité de l'histoire d'Israël avait buté en mai dernier.
Vous écoutez RFI et singulièrement une semaine d'actualité. Nous sommes cette semaine en compagnie de James Barr, universitaire, chercheur britannique qui s'intéresse à cette question du partage du Moyen-Orient au début du XXe siècle et ses conséquences aujourd'hui. Alors je ne peux pas avoir devant moi un chercheur anglais diplômé d'Oxford et chercheurs associés au King's College sans lui poser la question sur le Brexit, évidemment. Comment ressentez-vous cette crise qui, vue de l'autre côté de la Manche, semble presque irréaliste?
Oui, c'est nous le voyons dans la même façon, en fait. C'est vraiment étonnant le temps que nous vivons. Nous sommes coincés en ce moment, parce qu'il n'y a pas de majorité dans le Parlement. On parle d'un second référendum, mais c'est pas clair que ça résoudrait les problèmes. Les sondages montrent que tout le monde...
Il y aurait le même résultat, quasiment.
Oui, peut-être. Oui. C'est pas du tout clair. Et avec un gouvernement qui se trouve vraiment sans issue de cette situation, parce que ils ne peuvent pas passer la loi qui pour l'accord qu'avait négocié Theresa May, le dernier premier ministre, au même temps qu'ils ne peuvent pas aller aux urnes au même temps, parce que aujourd'hui la loi britannique l'empêche sans un vote dans le Parlement que les opposants au Parti conservateur ne veulent pas, parce qu'ils ont peur qu'ils vont perdre leur siège.
En tout cas, la Grande-Bretagne va quitter l'Union européenne, normalement, le 31 octobre.
Oui, ça c'est ce que Boris Johnson, le premier ministre britannique, a dit. Mais en fait, c'est pas clair qu'on va sortir de cette impasse.
Ah, ça, pour ne pas être clair, c'est vraiment pas clair.
C'est ça.
James Barr, nous parlions à l'instant avec Guilhem Deltaye dans sa correspondance de la formation du nouveau gouvernement israélien. Dans ce partage du Moyen-Orient que vous avez commencé à évoquer tout à l'heure entre les Français et les Britanniques, il y a ce territoire de la Palestine qui a été au cœur des relations des deux États, et notamment qui a été pour la Grande-Bretagne une crise profonde, une guerre même.
Oui, tout à fait. Mais au début, c'était tous les deux, le négociateur français, François-Georges Picot, et Marc Sykes, tous les deux voulaient la Palestine. Georges Picot, parce que ça fait partie du discours du parti colonial qu'il représentait. La Terre Sainte, c'était toujours dans la pensée des Français. Alors que Sykes, il avait une pensée plus stratégique. Il voulait une ceinture de territoire à travers le Moyen-Orient pour empêcher les rivaux européens à venir près de l'Inde, qui était à ce moment-là faisait partie de l'Empire britannique.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en plus vous nous expliquez très bien qu'on ne peut pas comprendre cette époque, ce partage, sans penser à l'Empire des Indes à côté. Hein. Cette relation ne paraît pas évidente pour nous Français, mais vous l'expliquez très bien. Mais ce territoire palestinien a été stratégique, enfin cette Palestine, d'autant que le mouvement sioniste, par exemple Balfour, a fait pression sur les autorités anglaises. Pour créer,
c'était très en fait les Britanniques ont accueilli cette pression parce que dans l'accord qu'a signé Georges Picot et Sykes, ils ont donné à la Palestine une administration internationale parce qu'ils ne pouvaient pas se mettre d'accord sur ce sujet. Alors, les Britanniques voulaient bien s'arracher la Palestine aux Français, et puis donc ils ont allé voir les sionistes pendant la guerre pour trouver leur soutien pour une Palestine britannique. Après la guerre, ils l'ont reçu.
La Première Guerre mondiale.
Ouais. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, et les Britanniques pensaient que la justice britannique allait résoudre les tensions entre la population juive et les Arabes, tout ira très bien. Donc, c'était un échec total pour les Britanniques parce que les tensions augmentaient pendant les années 30, surtout après la montée au pouvoir de Hitler, où on trouvait les réfugiés juifs qui venaient
en Palestine.
Nombreuses à la Palestine. Puis, à la fin de cette histoire amère, c'était les Français qui ont soutenu les sionistes parce qu'ils veulent, en fait, en revanche pour ce que les Britanniques ont fait au Liban, où les Britanniques avaient soutenu les Arabes, les nationalistes arabes, les Français, à leur tour, avaient soutenu des terroristes, soi-dit juifs.
Et c'est là, on voit très bien dans ce livre, dans votre étude, James Barr, ce rapport de force constant entre les deux puissances et cette instrumentalisation de toutes les causes, les Arabes, la Palestine, la création d'un État juif. On parlait des Nations Unies à l'instant. Il faut rappeler que ça s'est terminé par un plan de partage de la Palestine en 1947, mais que les Anglais avaient décidé juste avant de partir, de oui. quitter la Palestine.
Oui, tout à fait. En fait, ils sont fichés du problème à cette époque-là. C'était trop difficile pour eux à Calais. Et donc, la question est revenue à l'ONU,
aux Nations Unies.
En 1947, la France a voté pour l'établissement, en fait, d'un État juif, alors que les Britanniques...
se sont abstenus, oui.
Oui, c'est ça, c'est le mot.
Ouais. Oui. Et ce qui a permis aux Britanniques de se débarrasser, si je peux m'exprimer ainsi,
oui.
de la question palestinienne qui fait la une des journaux depuis 1947. Hein, on le constate encore aujourd'hui. L'actualité en France maintenant, James Barr, un pays que vous connaissez bien et que vous aimez. Vous êtes anglais mais vous aimez les Français, mais il y en a un certain nombre d'anglais qui aiment la France. Et nous allons commencer avec le spectaculaire incendie qui s'est déclenché dans la nuit de mercredi à jeudi dans une usine chimique de Rouen, c'est-à-dire dans le nord-ouest de la France. Il est éteint désormais cet incendie, il n'a pas fait de victimes mais a suscité des craintes de pollution de la Seine. Il a entraîné en tout cas la création d'un panache de 22 km de fumée noire au-dessus de cette agglomération normande de quelques 500 000 habitants. Et les habitants ont été justement priés de rester chez eux pendant plusieurs heures. Simon Rosé, jeudi.
Un panache de fumée impressionnant, 22 km de long au total, mais ce jeudi soir, il commençait déjà à disparaître. Sur le site de Lubrizol, les pompiers ont en effet réussi à circonscrire l'incendie. Il brûle toujours, mais ne s'étend plus. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a fait le déplacement.
Nous sommes à un moment de situation maîtrisée, mais à un moment où il nous faut savoir que nous aurons plusieurs jours de mobilisation devant nous pour éviter les risques de reprise de l'incendie, pour éviter aussi que des retombées liées aux fumées puissent avoir des effets plus graves que ceux que nous connaissons au moment présent.
Concrètement, il faudra plusieurs jours, voire semaines, aux pompiers pour réussir à éteindre le feu d'hydrocarbures, une opération toujours compliquée. La ville de Rouen, elle, prend son mal en patience. Les établissements scolaires vont rester fermés ce vendredi. La préfecture conseille aux habitants de ne pas manger les fruits et légumes du jardin. Ceci dit, le périmètre de sécurité autour de l'usine a été allégé et les habitants du quartier ont pu passer la nuit dans leur domicile. Les autorités se voulant par ailleurs rassurantes, les fumées dégagées par le feu ne présentent selon elles pas de dangerosité particulière. A noter enfin qu'une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie, mais il faudra attendre son extinction pour que les experts puissent se rendre sur place.
Parlons maintenant du début de la discussion parlementaire sur la loi bioéthique et sur sa mesure phare, en tout cas celle qui attire l'attention générale, l'extension à toutes les femmes de la PMA, la procréation médicale assisté Anthony Lattier.
C'est la hantise du pouvoir, diviser à nouveau la société, comme en 2013. Emmanuel Macron a donc fait passer la consigne, surtout ne pas humilier les opposants à la PMA, ne pas brutaliser les consciences. Le président a pris son temps, au point que l'on s'est interrogé sur sa volonté réelle de mettre en œuvre sa promesse de campagne. De nombreux députés pronostiquent des débats moins houleux que lors du mariage pour tous, la société a évolué et l'opposition n'avance pas unie, la gauche y est favorable et la droite est divisée. Il n'empêche, plusieurs points devrait susciter des crispations. L'extension de la PMA aux femmes seules, elle interroge d'ailleurs au sein même de la majorité, l'autorisation ou non de la PMA post-mortem, ou encore l'établissement de la filiation pour les enfants nés d'une PMA avec un tiers donneur. Là-dessus, la droite ne manquera pas de pointer le risque que cela débouche sur la GPA, l'autorisation des mères porteuses. La PMA, rien que la PMA, martèle le gouvernement, qui fera face à une manifestation dans la rue contre son projet le 6 octobre prochain.
James Barr, nous avons évoqué au début de l'émission le décès de Jacques Chirac. Jeudi, les hommages ont afflué du monde entier et bien entendu de toute la France. Un hommage national lui sera rendu demain et un deuil national a été décrété lundi. Vous pourrez suivre cela sur notre antenne. Écoutez un extrait de ce que disait l'actuel président français Emmanuel Macron sur son prédécesseur lors d'une allocution télévisée jeudi soir.
Nous, Français, perdons un homme d'État que nous aimions autant qu'il nous aimait. Et que nous partagions ou non ses idées, ses combats, nous nous reconnaissions tous en cet homme qui nous ressemblait et nous rassemblait. Le président Chirac incarna une certaine idée de la France.
Alors partons pour Gaza, James, où bon nombre d'habitants du territoire palestinien se souviennent d'un Jacques Chirac qui, selon eux, était leur avocat. Ils se souviennent d'un certain voyage à Jérusalem en 1996. Reportage de Marine Vlaovic.
Planté au milieu d'une artère principale de la ville de Gaza, Hanan regrette la disparition de Jacques Chirac.
Il a toujours été très correct avec les Palestiniens. C'est pour ça que beaucoup de gens ici sont vraiment tristes aujourd'hui.
Car les Palestiniens ont perdu l'un des plus fervents supporters de leur cause, selon Tarek.
Ils pensaient que la cause palestinienne était une question de justice et de droit, qu'il repose en paix.
Tarek se souvient bien de la visite de l'ancien président de la République française ici à Gaza, qui remonte à 1996. Ahmed, lui aussi, l'a gravé dans sa mémoire, même s'il était bien plus jeune à l'époque.
Quand on l'a reçu à Gaza, j'étais un scout. Un jeune scout dans mon école, je lui ai donné des fleurs, il m'a serré la main, mais il était si grand pour moi à l'époque. C'est un bon souvenir, c'était quelqu'un de bien pour moi.
Lors de cette visite en Israël et dans les territoires occupés, Jacques Chirac n'avait pas hésité à réprimander des policiers israéliens en plein cœur de la vieille ville de Jérusalem. Un coup d'éclat qui a fait de lui le héros des Palestiniens.
Jacques Chirac, on voit, je t'aime, présidence Jacques Chirac.
Nous sommes toujours en compagnie de James Barr qui a écrit une ligne dans le sable. J'ai profité de sa venue à Paris à l'occasion d'une conférence donnée au Paris MENA Legal Club, qui est le club des décideurs juridiques d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, pour l'inviter et parler de cette question. Comment réagissez-vous, James Barr, quand vous entendez ces Palestiniens parler de Jacques Chirac avec des trémolos dans la voix?
C'est très intéressant. À la fois, c'est pas surprenant parce qu'on pense de la France, de la relation assez étroite entre la France et les pays arabes. En même temps que, comme historien, je vois qu'en fait, la France a joué un rôle important dans la création de l'Israël. Donc, ici, on a réussi
d'unir les deux côtés de face du problème,
oui,
en quelque sorte.
Oui, tout à fait.
Parce qu'on comprend effectivement, à la lecture de votre livre, que la France, effectivement, a beaucoup fait pour la création de l'État d'Israël.
Oui, tout à fait. Oui, il était vraiment important à ce moment-là, au début des années 40, où ils ont trouvé un terrain commun avec les sionistes convaincus qui se fâchaient de plus en plus du mandat britannique, de la loi britannique qui existait en Palestine en ce moment-là. Et donc, ce sont des Français qui ont livré des armes, surtout, aux combattants sionistes en Palestine pour qu'ils puissent faire sauter des trains britanniques, des choses comme ça, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on a une situation où la France et la Grande-Bretagne étaient alliées à l'un côté, mais étaient aussi ennemies en fait au Moyen-Orient en ce moment-là.
Alors, vous nous rappelez aussi que la Deuxième Guerre mondiale a été déterminante aussi dans la région, bien évidemment, ne serait-ce que parce que, pour les Français, ce territoire devait être un territoire de la France libre et non plus de la France de Pétain. C'est-à-dire que le général de Gaulle a eu comme ambition de rallier en fait ces territoires à la France libre.
Et c'était vraiment le premier pays qu'il avait récupéré, je pense. Peut-être il y avait des zones en Afrique, mais c'était là, au Liban et en Syrie, en 1941, oui, qu'il avait récupéré. Et ça a créé un problème, parce que avant l'invasion de 1941 par les Britanniques et les Français libres, ont donné une promesse d'indépendance au Liban et à la Syrie.
Oui.
Mais puis après, c'était impossible pour De Gaulle, après avoir récupéré les deux pays pour la France libre, une organisation assez faible en ce moment-là, de les donner leur indépendance, mmh, comme il avait promis. Donc, c'était le début d'un clivage entre De Gaulle et aussi les Arabes qui ont devenu de plus en plus nationalistes.
On parle souvent, James Barr, vous le savez, en France, de la politique, notamment avec le général De Gaulle, la politique arabe de la France. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que ce sont des mots ou pas?
C'est difficile parce que à une fois il y a certainement
une proximité
entre la France et surtout le Maghreb, mais en même temps ils avaient soutenu les sionistes aussi en ce moment-là. Donc c'est pour moi c'est un peu Janus, on peut le dire, c'est
à deux faces, oui, c'est
deux
ça.
Faces,
ouais.
C'est ça.
Mais d'ailleurs, c'est un thème récurrent en France de discussion quand on s'intéresse aux questions internationales, c'est de savoir quelle orientation le Quai d'Orsay prend. Est-ce qu'il est plus proche d'Israël ou plus proche du monde arabe? C'est l'éternelle question depuis 1958 au moins.
On a la même question chez nous aussi avec le Foreign Office. C'est toujours vu comme plus pro-arabe que le gouvernement en fait. Donc on a des gouvernements britanniques qui sont plus proches à l'Israël. alors que le Foreign Office, les diplomates, sont vus comme, on dit en anglais, camel corps, c'est-à-dire ils aiment des chameaux.
Alors, ce qu'il faut aussi dire, parce que vous parlez des conséquences aujourd'hui de cette époque, vous dites que De Gaulle a eu beaucoup de réticence vis-à-vis de la Grande-Bretagne, a empêché la Grande-Bretagne d'entrer dans le marché commun, la CEE de l'époque, l'Union européenne d'aujourd'hui, en souvenir, parce qu'il se souvenait de tout ce qu'il avait connu dans cette région de dissension, pour ne pas parler d'autres sujets, avec les Anglais.
Oui, tout à fait. C'est pour moi, pour comprendre la raison pour laquelle il avait mis son veto à l'entrée britannique, à l'adhésion britannique au Common Market en 1963, c'est parce que il y a cette histoire peu connue que je décris dans le livre où il se trouvait souvent, presque tout le temps, opposé aux Britanniques au Moyen-Orient. Et là, il avait vu son partisan principal qui s'appelait Louis Spears, qui était grand partisan du général. Spears est devenu son ennemi pire, en fait. Donc, il faut rappeler cette histoire pour comprendre. C'est pas toute la raison, ça n'explique pas toutes les raisons des années 60 qui expliquent la décision, mais
ça a joué sans doute.
Ça forme un portrait du général qui était assez méprisant des Britanniques.
Ça résume assez bien les relations franco-britanniques. James Barr, un peu de haine, un peu d'amour, un peu d'amour, un peu de haine.
Oui, c'est souvent la jalousie, je pense, à tous les deux côtés.
Notre adresse électronique.
semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez évidemment à nous écrire, notamment à la page Une semaine d'actu de Facebook. Je salue chaque semaine James Barr, quelques auditeurs qui nous écoutent fidèlement. Je salue aujourd'hui Emmanuel Alexandre à Conakry, Goni Gonané à N'Djamena, Adama qui nous écoute au Sénégal, Abdel à Douala et Mathieu qui nous suit attentivement à Parakou au Bénin. Il anime une émission littéraire à la radio de l'Université de la Ville. L'actualité africaine, donc, maintenant, James Barr, et revenons sur le sommet sur le climat. Il a été l'occasion pour le chef d'État du continent de faire un bilan et de s'inquiéter aussi à New York, Léonard Vincent.
Pour l'essentiel, les chefs d'État africains qui se sont exprimés lundi à New York ont rendu une copie qui se ressemblait. Chacun a présenté la liste des mesures prises, ici pour préserver ou agrandir les forêts, comme la RDC, le Gabon, l'Éthiopie ou le Congo-Brazzaville, par exemple. Là pour en finir à court ou moyen terme avec les centrales électriques à diesel ou à charbon et accélérer la marche vers la production d'énergie propre d'ici 10 ou 20 ans comme Djibouti, les Seychelles ou encore le Nigeria. Mais tous ont souligné une chose, les pays les plus pauvres sont aussi les plus menacés et l'Afrique est en première ligne. Le président djiboutien a ainsi évoqué la submersion prévisible de sa capitale à un horizon de quelques dizaines d'années. Et le président tchadien, le résultat meurtrier ces dernières années pour toute la région de la dégradation du lac Tchad. Les orateurs africains étaient donc sur la même ligne, tout en subissant de plein fouet les effets désastreux du changement climatique. Leurs pays, d'une part, ne pourront pas s'en sortir s'ils ne sont pas aidés, et d'autre part, si les pays les plus riches ne tiennent pas les promesses de l'accord de Paris.
Et à New York, capitale de la diplomatie, décidément cette semaine, il y a eu également un sommet encore un sur le G5 Sahel, cette fois sur la lutte contre le terrorisme. Les chefs d'État des pays concernés ont réclamé plus de fermeté. Écoutez par exemple ce qu'a dit à Léonard Vincent le président du Niger, Mahamadou Issoufou.
Nous avons estimé que la MINUSMA étant présente sur le théâtre des opérations doit avoir un mandat offensif pour lutter contre le terrorisme. Le mandat de la MINUSMA ne doit pas se limiter au maintien de la paix, surtout quand on sait que une des conditions préalables pour obtenir la paix au Nord Mali, c'est une victoire contre le terrorisme. Et c'est pour cela que et le G5 Sahel, et la CEDEAO, et même l'Union africaine ont estimé qu'il faut soumettre au Conseil de sécurité ces préoccupations. J'ai bon espoir parce que de plus en plus la communauté internationale est consciente de la gravité de la situation. La communauté internationale est consciente du fait que la situation sécuritaire au Sahel se dégrade Et c'est temps même, au-delà du Sahel et au-delà du bassin du lac Tchad, c'est le moment d'une mobilisation optimale afin de barrer la route au terrorisme, parce que si le terrorisme arrivait à vaincre dans le Sahel, il va certainement s'en prendre à d'autres régions du monde, notamment à l'Europe, qui est toute proche.
Puisque nous parlons de violence, il nous faut nous arrêter un instant dans le centre du Mali, dans la région de Bandiagara, dans le pays Dogon, donc victime d'attaques à répétition depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, Coralie Pierret.
Attaque à Sinikanda mardi, incendie à Baladjina lundi, accrochage entre deux groupes armés à Tumpu samedi, enlèvement, exécution publique, vol, braquage. Les incidents sécuritaires sont maintenant quasi quotidiens dans le cercle de Bandiagara. On ne sait pas qui fait quoi et qui est avec qui, explique confus un élu local. S'il est difficile de dater cette flambée de violence, les bombardements du 5 septembre par l'armée malienne d'un camp de Dana en Bassagou n'ont rien arrangé. Les forces régulières ont désormais pris leur distance par rapport à cette milice depuis l'arrivée du Premier ministre Boubou Cissé, résume un expert sécuritaire. Aujourd'hui, ces chasseurs se sont retranchés sur le plateau de Bandiagara. Dans le reste du pays Dogon, à Koro, Bankas, Douenza, ce sont désormais les groupes djihadistes qui dominent, précise un autre spécialiste. Certains habitants ont manifesté à plusieurs reprises leur soutien à Dana en Bassagou, perçu comme le dernier rempart face aux djihadistes, pointant du doigt l'inaction de l'armée. D'autres, au contraire, dénoncent le ciblage ethnique perpétré par ces hommes armés. Dans une vidéo du 14 septembre, leur chef, Youssouf Toloba, menaçait d'enlèvement des ressortissants appartenant à la communauté Peul.
Avant de vous retrouver, James Barr, partons pour l'Algérie à l'issue d'un procès pour le moins expéditif, loin des médias. Le frère du président déchu, Saïd Bouteflika, deux ex-chefs du renseignement et une chef de parti politique ont été condamnés par un tribunal militaire algérien à 15 ans de prison pour complot contre l'autorité de l'État. Pour l'armée, il est urgent de se donner un nouveau visage, semble-t-il, à Alger jeudi, Leïla Berato.
Objectif, se démarquer du régime précédent. Et il y a urgence à retrouver la confiance de la population, car l'élection présidentielle est prévue dans moins de 3 mois. Les menaces et l'interdiction de venir manifester à Alger la semaine dernière ont provoqué le contraire de l'effet attendu. Alors cette semaine, les autorités ont relancé leur grande lutte contre la corruption. D'anciens ministres, premiers ministres, hauts fonctionnaires, responsables politiques sont déjà en détention provisoire et la liste va s'allonger puisque le Parlement a voté hier en faveur de la levée de l'immunité de plusieurs députés. En condamnant Saïd Bouteflika, le frère de l'ancien président, ancien conseiller qui avait obtenu beaucoup de pouvoir, ainsi que les anciens responsables des services de sécurité, la justice tente de montrer qu'elle n'est plus la justice de l'époque Bouteflika, mais elle emprisonne aussi ceux qui ont envisagé une transition sans Ahmed Gaïd Salah.
Suite à fin d'une semaine d'actualité en compagnie de James Barr, vous expliquez dans votre livre que dans les années 40, 50, les Français dans cette région du monde, au Moyen-Orient, pensaient aussi aux colonies d'Afrique du Nord, car il était difficile de promettre l'indépendance à la Syrie ou au Liban sans craindre, disaient les dirigeants de l'époque, des revendications indépendantistes aussi en Afrique du Nord, en Algérie par exemple.
Oui, tout à fait. C'est le problème français à cette époque-là. C'était oui. Alors qu'ils voulaient toujours garder l'Algérie, il y avait cette question de l'indépendance au Liban et en Syrie. Mais le politique était assez maligne en fait, parce qu'ils avaient pensé que s'ils soutenaient la création de l'État d'Israël, ça allait émousser un peu le nationalisme arabe en Algérie. Donc c'était une stratégie assez subtile et large.
Alors il nous faut évidemment, pour conclure cette émission, James Barr parlait de l'effet qu'a eu la découverte et le transport du pétrole dans la région. Parce que là, ça a vraiment attisé les antagonismes et ça a fait apparaître, qui plus est, un partenaire important, les États-Unis.
Oui, mais en fait, au début, c'était pas vraiment un dossier qui concernait les Anglais. en fait. C'est la raison pour laquelle Sykes a donné à Georges Picot la ville de Mossoul et les alentours qui avaient, il y avait des champs pétroliers qu'on connaissait même en ce moment-là. Donc, c'était plus tard, c'était à la fin de la Première Guerre mondiale quand à Londres, on a réalisé que le pétrole allait être vraiment important. À cause de la pression aux États-Unis contre l'impérialisme.
Donc c'était de Wilson, du président Wilson.
Oui, de Wilson, ouais. Et tout à fait. Et c'était ça, c'était cette inquiétude britannique qui les ont menés à créer l'Irak, à changer cette ligne dans le sable. Ils ont forcé le premier ministre français à cette époque-là, qui était Clemenceau, de retracer la ligne, de donner aux Britanniques, le nord de l'Irak, comme c'est aujourd'hui. Et puis, les Anglais se récupèrent de la pétrole.
Ah oui, oui. Et d'ailleurs, cette question du pétrole est toujours très présente dans la politique, dans la géopolitique de la région, évidemment.
Oui, avec les attentats en Arabie Saoudite, la semaine dernière, oui. J'ai une voiture, je vois que le prix de pétrole augmente assez vite. Donc c'est toujours très important. Mais en même temps, aux États-Unis, ils ont, comme ils avaient, il y a un siècle, ils avaient leur propre champ pétrolier. Mm-hmm. Aujourd'hui, ils ont la même chose encore une fois. Donc, pour les États-Unis, le Moyen-Orient est moins important.
Devenu moins important parce qu'ils ont le gaz de schiste, oui. Et ils ont une production, oui. Qui leur donne une autonomie, qui leur permettra d'ailleurs d'être exportateurs sous peu. Mais on voit d'ailleurs dans votre livre se dessiner les grandes compagnies pétrolières dans la région et les enjeux, les alliances entre les Anglais, les Français, les Américains pour créer ces compagnies pétrolières. On sent monter l'enjeu du pétrole, hein.
Oui.
L'enjeu financier, l'enjeu politique, et pas seulement la découverte du pétrole, son acheminement, le tracé des pipelines.
Oui, parce que en fait, les Anglais ont enfin trouvé le pétrole en 1927, je pense, 1927-1928. Mmh. Et puis c'est la question d'acheminement, comme vous le dites, et parce que donc la compagnie de pétrole en Irak était les propriétaires étaient anglais, français et américains. Mmh. Donc il fallait une pipeline qui se divisait en fait pour aller soit dans la zone anglaise et soit dans la zone française aussi. Donc le pipeline existe toujours, mais ça n'a pas marché depuis les années 70, je pense.
Merci James Barr, votre livre est absolument passionnant, il s'intitule Une ligne dans le sable, il est donc publié en édition de poche dans la collection Tempus chez Perrin. Je le recommande vivement parce qu'il est écrit comme un roman et il nous permet aussi de comprendre la situation d'aujourd'hui. Merci.
Merci.
Une semaine d'actualité, un numéro réalisé par Ludivine Amado. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée. Cette fois, nous parlerons des atteintes à la vérité, à l'heure des infox, des fake news. Et nous serons en compagnie du philosophe Pascal Angèle, qui prône une éthique intellectuelle pour faire face à ce fléau. Nous en parlerons donc demain dimanche dans Idée à 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, nouveau journal sur RFI.